clé secrète de l'univers. Dominique Demichel et Michel Galliana Mingo.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes. Vous nous rejoignez pour cette émission hebdomadaire, Les clés secrètes de l'univers, cet immense feuilleton cosmique qui nous emmène dans une odyssée qui commence au Big Bang et nous conduit tranquillement jusqu'à notre vie d'aujourd'hui. Vous avez probablement reconnu notre générique, qui est la musique composée par Richard Strauss, et qui est surtout dans nos oreilles parce que Stanley Kubrick l'a utilisé pour l'ouverture de son film 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est sorti en 2001. Pour ce parcours, nous avons un guide précieux qui nous explique tranquillement, lentement, et j'invite tous nos éditeurs à lire cet ouvrage qui s'appelle « Les clés secrètes de l'univers » qui a été publié chez UDP Sciences et que nous avons repris pour le titre de notre émission. Alors Michel, la semaine dernière, nous avons surtout essayé de comprendre comment on avait pu passer du minéral, c'est-à-dire en gros les cailloux, les pierres, les choses comme ça, et puis aussi l'eau, les nuages et tout ça, à la vie, c'est-à-dire telle que nous la connaissons, dans ce qui va donner le végétal, les virus et les bactéries. Alors aujourd'hui, où est-ce que vous nous emmenez ?
Nous avons sauté très allègrement l'étape la plus complexe, tout simplement parce que la science n'est pas très avancée dans le domaine, c'est l'origine de la vie qui reste un grand mystère. Et nous arrivons aux premières formes de vie dont nous avons des fossiles, ce sont des bactéries. Et les fossiles que nous avons ne sont pas des fossiles de bactéries, parce que les bactéries se détruisent, n'est-ce pas ? Mais sont des roches, on en avait parlé, qui sont fabriquées par les bactéries et dont on reconnaît la forme. Et on a trouvé ces roches qui ressemblent un peu à des champignons de calcaire. On a trouvé des fossiles de ces roches-là, qui ressemblent parfaitement à des roches faites aujourd'hui par des bactéries dans la mer et qu'on appelle des stromatolites. Donc ce sont les preuves de vie bactérienne. Il y a 3,5
Ça, c'était en Australie, je crois, qu'on a trouvé ça, surtout, non ?
Oui, en Australie. Pourquoi ? Il y a peu d'endroits sur Terre où on trouve des roches aussi anciennes. Vous savez que la Terre est née à peu près en même temps que le Soleil, il y a 4,56 milliards d'années. Et au début, c'était une boule de feu. Quand la Terre s'est solidifiée, c'était il y a 4 et quelques milliards d'années, eh bien, les roches de cette époque n'ont pas été conservées parce que sur Terre, vous avez un cycle qu'on appelle tectonique. Les plaques tectoniques, vous voyez ce que c'est, eh bien, ces plaques bougent et à certains endroits, une plaque s'enfonce sous l'autre et rentre dans le magma liquide. Et au contraire, à d'autres endroits au centre des océans, le magma sort. Vous avez donc un recyclage permanent des roches qui fait qu'aujourd'hui, il y a très peu de roches qui datent de, disons, 4 milliards d'années. Et en Australie, effectivement, il y a un endroit où il existe encore des roches de ce type-là. Il y a d'autres endroits en Alaska, en Sibérie. On connaît quelques endroits où on peut retrouver des fossiles de roches très, très anciennes. Alors, maintenant, la bactérie est née à peu près donc vers, avant 3,5 milliards d'années. On parle souvent de 3,8 milliards à peu près. Et ce qui a permis de passer de la bactérie à l'homme, c'est ce dont je vais parler maintenant, c'est l'évolution darwinienne. Bon, l'évolution darwinienne n'a fait que se prouver au cours des temps, et surtout la grande preuve qui a donné raison à Darwin de façon définitive, c'est la découverte de l'ADN par Watson et Crick en 1953, la molécule en forme d'hélice. Eh bien, le jour où on a découvert cette molécule, on a compris qu'elle était détentrice de l'information génétique Et on a compris que Darwin avait raison en cela, que le raisonnement de Darwin était qu'il y a des erreurs de duplication d'une génération à l'autre, et que parmi ces erreurs, la nature trie. Et quand on a découvert donc cette molécule, on a compris qu'elle pouvait se dupliquer. C'est une hélice qui se défait, si vous voulez, et qui ensuite recompose deux hélices. Voilà comment se réplique un être vivant comme nous. Mais il y a des erreurs. Alors je vous dis tout de suite, le taux d'erreur est très faible, hein. Par exemple, pour un homme, le génome représente à peu près une information égale à tout ce qu'il y a dans l'Encyclopædia Britannica. Et lorsque vous avez un enfant, lorsque le génome se duplique, il y a à peu près une erreur pour l'ensemble de l'Encyclopédia Britannica. Donc imaginez une secrétaire qui taperait l'ensemble d'une encyclopédie de 10 volumes in quarto et qui réussirait à taper la copie avec une seule erreur, une seule lettre. Donc je vous dis tout de suite, le taux d'erreur est très faible, mais ce sont des erreurs, et ce sont ces erreurs qui sont à l'origine de l'évolution darwinienne. Comment Darwin avait-il compris cela? C'est en observant les éleveurs. Il avait vu que en Angleterre, il y avait des éleveurs de moutons et il avait bien vu comment ils obtenaient les meilleures laines. C'est très simple. Quand une brebis avait une portée de trois moutons, eh bien, parmi les trois, s'il y en avait un qui avait plus de laine que les autres, on l'utilisait pour la reproduction. Et en faisant cela sur plusieurs siècles, on obtenait des bêtes qui donnaient énormément de laine. Darwin avait compris cela et avait dit, bah, après tout, la nature doit faire la même chose. C'est-à-dire que si une girafe, je crois que je vous donnais l'exemple, a trois girafons et qu'il y en a un qui a le cou plus long que l'autre, que les deux autres, eh bien, ce girafon se nourrira plus facilement dans la cime des arbres et donnera statistiquement plus de progéniture que ses frères et sœurs. Et ainsi donc, les êtres les plus adaptés peuvent avoir plus de descendance, et s'ils ont plus de descendance, leurs caractéristiques finissent par s'imposer dans la population. Alors voilà ce qu'avait compris Darwin, et ce mécanisme est absolument redoutable. Moi, je le compare à une martingale au casino. Vous voyez, quand on joue une martingale au casino, on joue finalement, on joue quelque chose qui est assez simple. Je vous donne tout de suite la recette d'une martingale, comme ça vous pourrez aller l'essayer au casino si vous voulez. Quand vous gagnez, vous empochez l'argent, et quand vous perdez, vous rejouez le double. Si vous perdez encore, très bien. Vous rejouez le double. Et si vous jouez tout le temps le double quand vous perdez, vous êtes sûr de gagner toujours. Il y a un petit détail, par contre, qui fait que je ne vous encourage pas à aller essayer cela au casino. D'abord, si vous jouez comme cela, vous serez rejeté très vite au casino, hein, parce qu'ils surveillent ça. Mais le petit détail, c'est que si vous devez doubler sur une mauvaise série, vous devez doubler, doubler, doubler 10 fois, par exemple. Vous arrivez vite à vos limites financières et là c'est la faillite. Donc, je ne vous garantis pas le succès, mais en tout cas, la martingale, c'est un peu le modèle de l'évolution darwinienne. C'est un mécanisme simple, c'est très simple. Il y a des erreurs de duplication et il y a un tri qui trie les meilleures variations. Voilà, c'est très simple, vous voyez. C'est ce qu'on appelle un algorithme, parce que un robot pourrait faire ça. C'est extrêmement élémentaire. Et en même temps, c'est un système qui gagne tout le temps, parce que ce sont toujours les individus les plus adaptés, dans le règne animal, hein, végétal, qui donnent le plus de descendance et qui imposent leurs caractéristiques. C'est donc une martingale gagnante. Pas tout à fait, cependant. Je vous disais qu'il faut, vous avez un risque quand vous jouez une martingale, c'est le risque de série perdante. Eh bien, dans l'évolution naturelle, le risque, c'est les changements d'environnement. C'est lorsque vous avez une météorite qui tombe sur Terre, par exemple, alors là, là le casino explose. Vous voyez, mais en l'absence de ce genre de cataclysme, le processus darwinien est systématiquement gagnant et fait que une espèce va toujours progresser. Alors, progresser vers quoi ? Attention à ne pas tomber dans l'anthropocentrisme. Nous sommes les êtres les plus complexes de Terre et peut-être du cosmos. Il ne faut pas penser pour autant que la sélection naturelle sert à faire des espèces de plus en plus complexes. Non, l'évolution darwinienne, elle fait simplement des espèces plus adaptées. Alors, si pour s'adapter mieux à l'environnement, l'intelligence est utile, alors oui, l'intelligence se développera, ou la complexité. Mais le point de départ, c'est l'adaptation. Et précisément, la bactérie est un être, nous allons en parler la prochaine fois probablement, est un être extrêmement adapté à son environnement et qui s'adapte très vite quand il y a des modifications. Et c'est pour ça que pendant 3 milliards d'années, sur Terre, il n'y a que des bactéries et des cellules, hein, des êtres monocellulaires. La vie a été donc extrêmement simple pendant 3 milliards d'années. Pourquoi ? Peut-être parce que la sélection naturelle n'avait pas besoin de chercher quoi que ce soit d'autre. Les bactéries étaient très très bien adaptées à leur environnement. Alors vous Dominique, vous avez vécu parmi beaucoup de bactéries parce que vous êtes médecin, donc vous les avez vues. Nous, les particuliers, nous oublions souvent les bactéries parce que nous ne les voyons pas. Mais il y en a des quantités phénoménales autour de nous.
Oui, tout à fait. Je pense que nos auditeurs, parce que là aussi on arrive à la fin, nos auditeurs connaissent un tout petit peu le nom d'ailleurs de certaines bactéries comme le colibacille. Hein, les femmes qui ont des infections urinaires, elles ont des infections urinaires parce que elles ont un urètre qui est beaucoup plus court que chez l'homme. Donc les petites bactéries qu'on a sur la peau remontent et vont coloniser la vessie. Voilà, ça s'appelle des colibacilles ou des Escherichia coli. Et tout le monde connaît un petit peu le nom des staphylocoques ou des streptocoques ou des pneumocoques. Voilà, alors il y a beaucoup de bactéries comme ça qui donnent plein de maladies. Mais en effet, c'est important de rappeler aussi que les bactéries ont un rôle extrêmement important. À ce propos-là, mais peut-être vous en reparlerez, Michel, on pense actuellement qu'on a dans notre corps un tout petit peu plus de bactéries que de cellules dans notre corps entier. On en a en particulier énormément dans nos intestins, mais aussi dans nos poumons et ailleurs comme ça. Michel, on arrive à la fin. Vous nous disiez, vous nous annonciez un petit peu ce dont on va parler la semaine prochaine et on va se quitter là-dessus.
Oui, ben, je pense qu'il faut, il faut un couplet sur les bactéries, parce que les bactéries sont les reines de la biosphère. Si vous raisonnez en masse de matière vivante, alors elles sont très très loin devant nous. Si vous raisonnez en nombre d'espèces aussi, enfin les bactéries, je le disais tout à l'heure, on ne les voit pas, donc on ne pense pas à elles en permanence, mais les bactéries dominent la biosphère.
Ok. Michel, c'est l'heure de nous quitter et je souhaite à nos auditeurs une bonne année et puis je les invite à nous rejoindre la semaine prochaine. Et Michel, je vous remercie et je vous dis à bientôt.